VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Cameroun, la campagne électorale pour la présidentielle du 7 octobre commence samedi. 9 candidats briguent la magistrature suprême, dont le président sortant Paul Biya, 85 ans, au pouvoir depuis 1982. Dans un communiqué daté de mardi, 5 candidats de l'opposition accusent les médias d'État de privilégier le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, et les informations relatives au président Biya, qui cherche un 6e mandat. Les protestataires évoquent à ce propos une récente note de la radio-télévision camerounaise CRTV, selon laquelle sur 13 équipes de reportage pour suivre les 9 candidats à l'élection présidentielle, 5 ont été dédiés au candidat Paul Biya et à son équipe de campagne. La note de protestation est signée par le SDF, le Social Democratic Front, principal parti d'opposition, le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de l'opposant Maurice Kamto, le parti NOW de l'avocat Akere Mouna, ainsi que les formations de Kabra Libi et Serge Espoir Matamba, deux jeunes candidats à la présidentielle. Politique en RDC, le processus électoral en République démocratique du Congo aborde sa dernière ligne droite avec la publication ce mercredi de la liste définitive des candidats à la présidence qui doit officialiser l'exclusion de deux poids lourds de l'opposition Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba de la course à la magistrature suprême. Deux autres opposants, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, plus le dauphin du président Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari, sont les principales personnalités dans cette liste d'une vingtaine de noms que la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, doit publier dans la journée, à 94 jours du scrutin. Cette publication ouvre la voie à la campagne électorale à partir du 22 novembre, puis aux élections présidentielles, législatives et provinciales prévues le 23 décembre pour désigner le successeur du président Joseph Kabila, qui ne peut plus constitutionnellement se représenter. Toujours concernant la présidentielle du 23 décembre, en RDC, l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, met en garde contre un possible chaos au Congo-Kinshasa. Si les élections prévues dans 3 mois ne sont pas fondées sur les principes et les valeurs partagées au sein de la SADC, la Communauté économique d'Afrique australe, l'ANC a signé un communiqué en ce sens avec 6 leaders de l'opposition congolaise, Eddie Sango.
L'ANC demande au gouvernement sud-africain de s'engager avec celui de la RDC et la communauté pour le développement de l'Afrique australe au respect du protocole électoral de la SADC, lequel consiste à promouvoir la tenue et l'observation d'élections démocratiques fondées sur les principes et les valeurs partagées de la démocratie, l'état des droits et le respect des droits humains, rappellent l'ANC et la délégation des partis et regroupements de l'opposition congolaise qui ont co-signé les documents. Pour l'ANC, la situation en RDC peut conduire au chaos, à l'instabilité et à la violence si elle n'est pas résolue en urgence. Et si Magashule, secrétaire général de l'ANC, a signé les textes au nom de son parti, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et Adolphe Mozito l'ont fait côté opposition congolaise. Le gouvernement du président congolais répète qu'il refuse toute ingérence dans les processus électoraux qui doit désigner un successeur au président Kabila.
Angola, le président angolais João Lourenço et le premier ministre portugais António Costa ont tourné mardi la page de plusieurs années de tensions entre leurs deux pays en promettant de stimuler la coopération économique bilatérale. Les précisions d'Irénée Herman Ongo.
La rencontre a permis de faire prévaloir le bon sens, le pragmatisme et le sens de l'État pour que les relations entre les deux pays en sortent renforcées, a indiqué João Lourenço à sa sortie d'un tête-à-tête avec António Costa. Monsieur Costa, de son côté, a souhaité le développement du partenariat économique et financier entre les deux pays sur une base égale où chacun contribue à la richesse de l'autre. Très liés économiquement, Luanda et Lisbonne étaient en froid depuis l'ouverture d'une enquête pour corruption visant des dirigeants angolais dans l'ancien premier vice-président Manuel Vicente. La décision du Portugal de le juger sur son territoire avait provoqué la colère de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, qui a régné sans partage sur son pays de 1979 à 2017. Les liens entre les deux pays se sont réchauffés depuis la décision de transférer à Luanda le procès de M. Vicente, comme le souhaitait l'Angola. Le président João Lourenço et le premier ministre Antonio Costa ont marqué la fin de la brouille entre leurs pays en signant un nouvel accord de coopération stratégique bilatérale pour la période 2018-2022.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Conflit au Soudan du Sud, le chef de la MINUS, la mission de l'ONU au Soudan du Sud, a déploré ce mercredi ce qu'il a appelé le climat de suspicion entre les parties ayant signé un accord de paix le 12 septembre. David Scherer regrette qu'aucune mesure concrète n'ait encore été prise par les ex-belligérants pour appliquer l'accord en question. Ceux qui ont signé le document ont par le passé été amis et ennemis. Et il transparaît dans nos discussions avec eux qu'il y a encore beaucoup de suspicions, a souligné le chef de la MINUS lors d'une conférence de presse à Djouba, la capitale du Sud-Soudan. Et toujours concernant le Soudan du Sud, Amnesty International affirme dans un rapport publié aujourd'hui que l'armée sud-soudanaise et ses milices alliées se sont livrées à de nouvelles atrocités d'une brutalité ahurissante contre des civils lors d'une offensive menée d'avril à début juillet dans le nord du pays. Dans ce document intitulé « Tout ce qui respirait était tué », des crimes de guerre à l'air et Mayendit, l'ONG de défense des droits humains basée à Londres a compilé les témoignages de quelques 100 survivants qui font état non seulement de civils tués aveuglément, pendus à des arbres et écrasés par des véhicules blindés, mais aussi de viols, enlèvements et pillages. La faim augmente dans le monde. En cause, les caprices du climat, les conflits armés et les troubles politiques. 5 agences de l'ONU révèlent dans un rapport qu'en 2017, pour la 3e année consécutive, le nombre de personnes en état de manque chronique de nourriture a grimpé, un chiffre qui avait tendance à reculer auparavant. Eddie Sango a joint Dominique Bourgeon, directeur de la division des urgences et de la réhabilitation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO.
Depuis l'an dernier, 2 ans en fait, nous observons une augmentation et cette année, malheureusement, nous comptons 821 millions de personnes, soit une personne sur 9 dans le monde qui est en situation de sous-alimentation chronique. Alors à cela, nous avons identifié 3 causes principales qui sont tout d'abord la prévalence des conflits dans un certain nombre de pays qui a un impact important sur la propagation de l'insécurité alimentaire dans ces pays. La deuxième cause que nous avons identifiée est liée à la variabilité du climat et aux extrêmes climatiques. Et ensuite, la troisième cause, malheureusement, qui affecte un certain nombre de pays, est liée à la situation de crise économique que traverse un certain nombre de ces pays. Cette année, l'accent est mis dans le rapport sur la variabilité du climat et les extrêmes climatiques, et ça nous préoccupe beaucoup, dans la mesure où nous voyons qu'en fait, nous avons un nombre croissant de pays qui sont confrontés à ces situations, avec, dans ces pays, un nombre croissant de personnes en insécurité alimentaire.
Et l'Afrique, dans tout cela, reste le continent le plus touché, mais dans quelle proportion ?
21% de la population, soit 256 millions de personnes, sont en situation de sous-alimentation chronique. C'est l'Afrique subsaharienne qui est la plus affectée, puisqu'on considère qu'entre une personne sur 4 et une personne sur 5 pourrait avoir souffert d'une privation d'alimentation chronique en 2017. C'est en particulier en Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest, qui nous préoccupe, et c'est lié essentiellement à des situations de sécheresse, de hausse des prix et de ralentissement de la croissance, notamment du PIB par habitant dans ces pays. Il est clair que l'augmentation de la prévalence combinée à la croissance de la population a entraîné une augmentation qui est assez spectaculaire du nombre de personnes en sous-alimentation en Afrique, puisqu'en fait on est passé de 181 millions de personnes en 2010 à 222 millions en 2016, ce qui représente quand même une augmentation de près de 23% en 6 ans.
Que faut-il faire pour renverser la tendance?
Tout d'abord, il y a la question des conflits en Afrique qui affectent beaucoup de pays. Et l'an dernier, une organisation comme la FAO, avec ses partenaires, avait attiré l'attention sur la famine qui avait été déclarée au Sud-Soudan, mais aussi les risques de famine qui menaçaient d'autres pays, dont la Somalie et le nord-est du Nigeria. Donc tout d'abord, il est évident que la paix et la stabilité sont des éléments essentiels qui doivent être mis en place dans ces pays. Ensuite, par rapport effectivement à la question de la variabilité du climat et des extrêmes climatiques, il est absolument absolument fondamental que nous renforcions ce qu'on appelle la résilience face au climat en combinant des actions d'adaptation au changement climatique avec des actions liées à la réduction du risque de catastrophe, à finalement diminuer l'exposition des agriculteurs et des petits producteurs au risque de catastrophe.
Dominique Bourgeon, directeur de la division des urgences et de la réhabilitation de la FAO à Rome. Merci de votre attention.